Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Donc, je suis Nicolas avec...
Avec Guillaume.
Et on a la mise en onde de Jean-Pierre Grigny qui nous rend un fier service en venant remplacer Farouco exceptionnellement cette semaine. Donc, merci à lui. On va parler essentiellement de deux choses.
Ouais. Parce que c'est pas mal deux grosses choses quand même cette semaine.
Oui, il y a les gros sujets dans les chasses les ondes.
Oui, effectivement. En fait, il y a la question de Clotaire Rapaille avec Régis Labeaume qui a décidé de casser le contrat finalement après cette saga de sadomasochisme et autres freudisme.
Donc, on va revenir là-dessus avec un PPP notamment.
Mm-hmm. Puis sinon, on va parler de budget et de comment on se fait taper dessus avec des hausses de tarifs et de... En tout cas, on se fait avoir.
Oui, on se fait avoir royalement, mais il y a quand même une riposte et ça aussi, mm-hmm. on va en jaser. On va jaser cette semaine, donc, à voix de fait. Et mais sinon, on va s'en aller tout de suite, en fait, en musique avec... toi, tu nous as sorti...
Ouais, j'ai sorti une chanson des Orgues de Barbac, La rue de Paname, rue de Paname.
Et au retour, on revient avec
Dans
Régis.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Il y avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmant, il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie, la joie et l'anarchie, la joie dans Paris.
Donc, c'était les Ocs de Barbac sur Sequoia 88.3, toujours à voix de fait. Alors, cette semaine à Québec, comment passer à côté du maire et de son publiciste?
Ah, c'était toute beauté.
C'était toute beauté, effectivement. Bon, on vous apprendra rien en vous disant que la ville de Québec, pour le Chaudière-Appalaches et je me souviens plus que l'Office de tourisme, c'est ça, ont résilié le contrat qui les liait à Clotaire Rapaille. Pour une analyse, pour trouver le code de Québec. Et mais c'est quand même quelque chose qui a fait énormément de vagues. Et on a voulu revenir là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, il y a notre copain François qui s'est attelé à la lourde tâche. En fait, voie de fait, s'est infiltré dans la conférence de presse du maire. Et nous en avons ramené un PPP avec le populiste en chef, en fait, Régis Labeaume. PPP qu'on va écouter à l'instant. Donc, tu peux le lancer.
Régis Labeaume.
Comme Carl vient de le dire, les partenaires du projet, dont Pôle et Québec, David Aigret, se sont envoyés de M. Rapaille pour mettre fin au contrat qui les liait. Ce matériel est d'autre part d'une grande valeur dans la mesure où il correspond au travail effectué auprès de 10 groupes discussion dont le quotidien de marché correspondrait à environ 75 000 $. Hein? Nous croyons toujours à la justice de à la justesse de la démarche. Pour déterminer le code de Québec, hein? Dans l'entreprise privée, ce genre de situation a moins d'impact, dans la mesure où ce qui importe ultimement est le résultat final. Hein? Je ne suis pas porté à l'autoflagellation. Oh, vous savez, j'ai plus grand espoir sur la nature humaine, là. Hein? Nous croyons toujours à la méthodologie de la recherche du code. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... dans ces affaires-là, ce que je remarque, là, dans ces affaires-là, là, quand ça va un peu plus mal, c'est le festival du poltron ou du spécialiste à Saint-Saëns. Hein? Est-ce que vous êtes tous devenus des psychanalystes ou... Isabelle Porter, comment ça va? On se connaît bien, vous et moi, hein? Bon, on est beaucoup à se demander pourquoi vous couvrez la ville, d'ailleurs.
Je voudrais juste qu'on filme les...
Comment ça va, là? Il y avait Mme Fissière. L'exercice d'auto-mutilation dans un de ses articles.
Alors, il y avait Mme...
Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas ça. Mais non, madame. Mais non, c'est faux. Ce que vous dites est complètement faux. Mais non, je vous aime, madame. Je ne suis pas fâché. Allez donc. Qu'est-ce que vous voulez dire? À quelle heure ou à quelle date, chère Isabelle? Quand? Hein? Ah, c'est essentiellement sur ton article, chère Isabelle, la semaine dernière, qui était beau journaliste de colonisé. Prochaine question. Non. S'il y a une erreur, elle provient de M. Rapaille lui-même. L'excentricité est un trait de caractère qui ne nous rebute aucunement. C'est parce que vous voudriez que vous, qu'on s'effondre, qu'on saigne et qu'on pleure, on ne fera pas sur mer. Voyez-vous, on est en affaires, on est des gestionnaires. Celle-là n'a pas marché, puis c'est tout. Vous voudriez qu'on saigne. On ne saignera pas, c'est tout. Voilà. Hein? Nous convenons que c'est raté et nous en sommes désolés. Merci.
Alors, c'était Régis Labeaume, notre joyeux maire lui-même, dans la parole populiste cette semaine. C'est un extrait, en fait, d'une conférence de presse. C'est pas une assemblée du conseil de ville, c'est pas une assemblée publique, c'est le maire face à des journalistes qui répond à des journalistes, et c'est comme ça qu'il a répondu à des journalistes, qui nous permet un peu d'expliquer peut-être pourquoi la réaction médiatique a été si forte et virulente que ça. Parce qu'on imagine que, bon, les gens qui sont là pour lui poser des questions, qui sont virés de bord de même, et dans le fond, il a jamais
répondu.
Il était
chumé avec lui la plupart du temps, puis là, c'est comme, ils se font remettre ça dans la face, puis ils se mettent, à cause que là, ils ont critiqué la décision de la ville, puis tout, là, c'est assez fou. Donc, pas le droit de critiquer, tant que vous me dites des belles choses, c'est merveilleux, sinon...
Tant que vous me servez de plateforme d'autopromotion, ouais, ça va bien. Ça. Mais si vous allez plus loin, c'est une autre histoire. Alors, Toi, qu'est-ce que t'en retenais avant que j'y aille avec moi?
On en avait parlé il y a deux semaines là par rapport à ce qui était sorti. Je sais pas si c'était Isabelle Porter qui l'avait sorti, j'avais pas remarqué, mais l'article que j'avais pris c'était dans Le Devoir justement sur Rapaille. Il y avait une interview avec des spécialistes.
C'était Isabelle Porter.
C'est ça. Mais elle avait juste fait un travail de journaliste, de recherche, de voir, tu sais, d'interviewer des gens qui sont effectivement des spécialistes dans le domaine de la promotion, puis de la publicité, puis de des choses que supposément Clotaire Rapaille est supposé être un spécialiste de ça, tu sais. Puis ramener ces faits-là en disant en rapportant les propos de quelqu'un qui disait non, ce qu'il fait comme exercice, ça rapportera pas ce qui a été dit au départ que ça allait rapporter. En fait, ce qu'il disait le spécialiste en question, c'était que ça allait beaucoup plus profiter à des entreprises de l'extérieur pour pouvoir venir s'implanter à Québec, pour pouvoir justement profiter des gens de Québec de diverses manières.
Trouver comment leur vendre des trucs.
Exactement, trouver comment leur vendre des trucs. Puis dans le fond, ça allait pas faire qu'on allait rajeunir la population comme ce que Régis Labeaume avait dit, ou qu'on allait attirer plus de touristes pour autant. Là, c'était vraiment pas ça, dans le fond, qui allait sortir de ça, d'après ce spécialiste-là. Bon. Ça reste que c'est ça, on pouvait de toute façon douter d'après ce qu'il y avait déjà sorti dans les premiers c'est pas un rapport préliminaire, mais dans les premières interviews de rappeurs qui disaient des trucs assez aberrants, là, tu sais, que dans le fond, comment tu peux généraliser une population, le sadomasochisme ou en tout cas des comportements de telle façon, là. Mais personnellement, je dois avouer que je n'adhère pas à ce genre de trucs-là, de code ou de, tu sais, de comme on va y aller, on va trouver qu'est-ce que tout le monde pense dans cette ville-là, là, mais bon, tu sais, en tout cas.
Moi, ce que je trouve plutôt hallucinant de l'ensemble de la démarche, c'est qu'on en arrive à une situation où, lors de la même conférence de presse, on l'a entendu, les autorités, en fait les commanditaires, disent essentiellement, on croit encore à la démarche, on croit que les résultats qui ont été obtenus ont une très grande valeur et nous en serons propriétaires et ça continuera de servir. Mm-hmm. On dit même que ça vaut au bon mot 75 000 $ le travail fait avec les focus group jusqu'à maintenant, mais on met fin au contrat essentiellement parce qu'il y a des ombres sur le CV du monsieur qui a eu fausse représentation finalement, mais on recule pas du tout sur le bien fondé de la démarche, on en vient juste avec finalement, on s'est fait prendre, et c'est pour ça entre autres que le maire est si fru avec les journalistes, parce qu'ils ont fait capoter sa démarche, et moi ce que je trouve très intéressant de l'ensemble de l'opération, c'est que on a à Québec un maire qui prend énormément de place, qui, aux dernières nouvelles, est à quelques 80%, 90% de taux d'approbation, très populaire, et c'est quand même spécial de l'avoir que la première fois où est-ce qu'il trébuche, la première fois où est-ce qu'il y a un recul ou une défaite depuis son élection, c'est une défaite qui est auto-infligée, qui vient directement de son style de gestion et de son entêtement, parce que lorsqu'il y a eu la décision de l'embauche, ça s'est fait sur un coup de tête, ça s'est fait entre partenaires d'affaires, il l'a dit clairement, on est des gestionnaires d'affaires et tout, mais sans qu'il y ait consultation des instances, sans que les élus à la Ville de Québec puissent dire quoi que ce soit, c'était croix ou meurt. Et je me souviens, le premier conseil de ville en janvier, après la période des fêtes, il y avait des questions qui étaient posées par les deux seuls conseillers indépendants sur la nature du contrat, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va nous donner exactement, avec quoi est-ce qu'on va se retrouver, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi la démarche précise, quel type de produit en fait on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir pour 300 000 piastres, tout ce genre de questions-là. Et il y avait une réponse tout à fait méprisante. En fait, le maire a carrément dit au conseiller, je ne vous ferai pas de cours de marketing, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça va rapporter, c'est un king, c'est le best et tout. Puis il a décidé, comme c'est arrivé souvent sur plusieurs décisions, d'aller de l'avant malgré tout. C'était une vision tout à fait autoritaire du pouvoir, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de décision, je prends la décision, je l'assume. Il y avait une interdiction formelle aux membres de son caucus d'intervenir sur cette question-là depuis plusieurs semaines. Et donc, on se retrouve finalement où ça lui pète d'en face à un moment donné, et où, ben, comme ça a été géré, comme ça a été un forcing, un passage en force malgré les grincements de dents et tout, ça avait bien marché, ça aurait été génial là, pour auréoler de gloire Régis Labeaume et les autres partenaires. Quoique les autres partenaires, ils n'auraient probablement pas été là. Quand on a annoncé le contrat, c'était à l'hôtel de ville avec le maire. Quand on annonce qu'on le scinde, qu'on y met fin, là, tout d'un coup, c'est chez Paul Chaudière-Appalaches avec le DG de Paul Chaudière-Appalaches qui l'appelle gentiment Vielle. Il nomme par son nom de famille en conférence de presse, c'est quelque chose. Donc, c'est une défaite qui est auto-infligée. Et l'autre chose qui est très intéressante, en fait, de ça, moi, quand j'étais petit, mon grand-père, il disait, qui vit par l'épée, périt par l'épée. Et dans le cas présent, on a vraiment quelqu'un dont le pouvoir était, en fait, c'est les médias qui ont construit Régis Labeaume, qui ont construit l'administration Labeaume, et ce qui me surprend beaucoup, c'est que ce sont les médias, en fait, qui ont fait péter la patente. C'est pas les questions du public, c'est pas la grogne populaire, c'est pas les questions des indépendants. C'est un travail journalistique tout bête. Ils sont allés creuser pour vérifier des références. Ça a été publié dans Le Soleil. Et donc, c'est vraiment les journalistes, par un travail basique de journaliste critique, en fait, qui tient plus de leur rôle traditionnel que ça l'a fait. Et justement, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a tout le pétage de coche autour des journalistes et tout ça, et la frustration autour de ça. Et c'est vraiment les médias qui, finalement, le font trébucher. Et c'est sa très mauvaise gestion des médias qui fait qu'il s'enfonce encore plus. Et
en prenant une décision aussi comme ça, aussi autoritaire, sans passer par les instances, sans passer, ben premièrement, il y a clairement aucune confiance envers les gens qui travaillent pour la Ville de Québec. Mais si ça avait passé par un processus normal d'évaluation par des fonctionnaires ou des gens qui sont habitués d'évaluer des curriculum vitae, puis d'évaluer justement les références. S'il y avait eu un appel d'offres, ben, tu sais, effectivement, que peut-être que ces choses-là seraient ressorties à l'interne, ça serait discuté, ça aurait été bon, puis là, finalement, tu sais, tout aurait passé comme ça, mais c'est son style, c'est sa manière de voir les choses,
Et sinon, tout l'épisode est un puissant révélateur aussi, ben, justement, du style, c'est-à-dire les gens qui vont au conseil de ville, les gens qui ont affaire avec l'administration municipale pour différentes raisons, quand ils se retrouvent dans le chemin de Régis Labeaume, finalement, ont pu constater toute l'arrogance, la violence, le petit côté coq de village qui ressort parfois. C'est très flagrant, notamment quand il s'adresse aux deux élus de l'opposition. Mais là, c'est tout le monde a pu le voir en prime time, coast to coast. C'est quand même quelque chose, là. On a vu le petit chiffrage sucré depuis longtemps, mais là, on a vraiment vu la colère et le l'ego. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Et je crois, bon, il va s'en relever, puis il va probablement encore péter des scores pas possibles pendant un bon bout de temps. Mais je pense qu'on peut le marquer d'une pierre blanche. L'affaire Clotaire-Rapaille, ça a été la perte de virginité du maire Régis Labeaume. Et fort probablement que ça, c'est, à défaut d'être la fin de la lune de miel avec le public, ça va probablement être la fin de la lune de miel avec les médias. Ouais. Ou à tout le moins les médias mainstream traditionnels. Mm-hmm. Parce que, on le sait, mardi et mercredi, le maire, mardi en fait surtout, le maire a fait le tour des radios, en fait, l'FM 93, Choix Radio X, pour, et où il y a eu des appuis et tout sur cette question-là. Parce que bon, ils aiment bien ça, un guerrier à la tête de la ville. Mais quand même, je pense que, bon, c'est sûr qu'on pourra probablement jamais guérir François Bourque de sa labomophilie, mais il reste que qu'une perte de virginité à ce niveau-là, et qu'on va revenir à une situation un peu plus normale, où est-ce que le maire ne sera plus inattaquable, ne sera plus invincible, puis peut-être qu'il va pouvoir avoir place pour un peu plus de critiques dans cette très belle ville qui est la Ville de Québec. Donc, moi, ça fait pas mal le tour pour cette question-là.
Moi aussi.
Toi, ça va comme ça? Mm-hmm. Alors, c'est l'heure des demandes spéciales. Il y a François qui nous a demandé de faire jouer quelque chose que j'ai jamais entendu, que je sais pas de quoi ça va avoir l'air. C'est du punk de Limoilou. Ça s'appelle Gerbia. Alors, rock'n'roll chômage sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Hey, Gerbia sur les ondes de Sequoia 88.3. Vous écoutez toujours Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. Autre dossier qui, ma foi, marque l'actualité en cette semaine de la fin mars, début avril, est le budget du Québec.
Eh oui.
Qui va... qui...
On vient de se faire imposer un agenda de droite assez intense, sérieusement. Là. T'sais, on entendait depuis plusieurs années, là, mais t'sais, ces derniers temps, ils se sont fait quand même omniprésents, là, les gens de l'Institut économique de Montréal, de l'Institut Fraser, puis ces trucs-là là, qui nous ramenaient les idées systématiquement que bon, faut arrêter de hausser les impôts, faut baisser les impôts de plus en plus pour les plus riches, faut arrêter pour une supposément stimulation économique, faut que les gens paient pour leurs services parce que bon, ça va les responsabiliser, faut en tout cas toutes ces mesures là qui font en sorte que ben c'est ça, on enlève le facteur égalité, équité sociale finalement dans la société versus le gouvernement qui fournit des services. Ben toutes ces choses-là se retrouvent maintenant dans le budget du gouvernement Charest, le premier budget de son ministre Bachand. En gros, là, je veux dire, on passera pas à travers toutes les petites mesures. Là. Ça a été omniprésent, toutes ces choses-là. Mais les choses qui sont quand même assez, qui nous ramènent à des choses qui
fondamentales,
c'est ça. Mais par rapport, entre autres, à la santé, là, on parle d'une cotisation santé, un impôt. Complètement qui est pas progressif là, un impôt fixe sur pour chaque personne là, cette année ça va être
une taxe
ouais c'est ça, mais cette année ça va être 25$ puis jusqu'à 200$ en 2012 qu'on va avoir sur notre rapport d'impôt tout le monde,
200$ par adulte
puis c'est ça. Pour s'ajoutant à des frais de visite médicale. Là. Fait que si vous présentez à l'urgence, vous présentez en clinique, il va avoir...
de franchise.
C'est ça. Un frais de base pour votre consultation. Qui va peut-être paraître minime pour les gens qui gagnent bien leur vie, mais pour les gens qui ont de la misère à joindre le debout, ça va faire une très grosse différence. Surtout que,
C'est pas le seul frais nouveau.
Non, c'est ça. Parce que là, en plus, on parle d'un bond des tarifs d'électricité assez intense, 20% en 2014 et 2018, sans compter toutes les hausses qui s'en viennent d'ici là. On va carrément, c'est pour des appartements mal isolés et chauffés à des vieux calorifères électriques et tout, ça va augmenter le coût assez intensément. Ça va faire toute une différence sur la facture. Dans une ville comme Québec où les transports en commun ne s'améliorent que très lentement et où la voiture est reine, l'augmentation de 4 cents de plus le litre pour le litre d'essence, c'est quand même quelque chose qui va...
Ouais, à Québec, ça va être un peu moins que ça. Le maire a dit qu'il ne prendrait pas là, le...
Ah oui, il ne prendra pas, il améliorera pas le transport. En tout cas, c'est ça. On augmente quand même, c'est ça, la taxe sur l'essence, le prix de l'essence, qui est déjà plus haut.
2,5 cents, en fait.
2,5 cents, mais qui est déjà plus haut à Québec. Là. Je veux dire, vous sortez, vous allez vraiment pas loin, puis vous allez vous rendre compte. Montreux-Lac-Saint-Jean, il est quasiment à 10 cents de moins. Rendez-vous à Drummondville, il est 6 à 7 cents de moins, quelque chose comme ça.
Faut-tu moins de taxes et d'impôts à Drummondville puis au Saguenay?
Ben, en fait, au Saguenay, c'est intéressant parce que c'est il y a eu une lutte historique sur le coût de l'essence dans les années 80-90 qui a fait en sorte que le coût de l'essence est resté plus bas qu'ailleurs. Je me rappelle pas si c'était des mesures finalement qui avaient été prises d'incitatifs fiscaux là, par rapport à la taxe sur l'essence qui a été réduite pour la région. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, il est vraiment moins élevé le coût de l'essence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir aussi une consommation plus grande de camions et autres véhicules.
Ouais, pendant un certain temps, il me semble que Jonquière était la ville au Canada où il y avait le plus de Cadillac.
Ah, c'est possible.
C'était aussi lié au fait que c'était aussi probablement la place où il y avait le plus de gros jobs syndiqués par capita.
Avec l'usine Alcan, mais bon, en tout cas, peu importe. Autre mesure qui vient toucher tout le monde, ben c'est la hausse de 1% de la TVQ. Bon, c'est deux hausses, en fait, de 1%. On rattrape la baisse de la TVQ. GPS qui avait été donné à Ottawa. Bon, ça, jusqu'à un certain point, je veux dire, c'est quasiment un retour en arrière pour...
Mais oui, puis non, dans la mesure où s'il l'avait fait tout de suite, quand le, s'il l'avait fait tout de suite quand le fédéral s'était retiré, ça n'avait pas eu d'impact.
Ouais, c'est
pour
ça.
Les gens. Un impact minime parce que quand même la TVQ est calculée sur la TPS, mais ça n'aurait pas eu d'impact. Sauf que le problème, c'est que depuis, les prix se sont rajustés, les ouais. commerçants se sont pris une cote. Les prix ne reviendront pas à ce qu'ils étaient il y a,
l'inflation il y a deux ans.
Donc, ouais. Donc non, ça n'aurait pas le même effet.
C'est ça.
Ça va vraiment avoir l'effet d'une hausse et non pas kiff-kiff de l'argent qui passe de la caisse fédérale à la caisse provinciale.
Effectivement. Ben sinon l'autre gros dossier c'est ça l'annonce que les droits de scolarité dans les universités vont augmenter après 2012. Bon ça a été dit à la base que c'était $50 par session jusqu'en 2012 par année, mais finalement c'est ça, on confirme qu'après 2012 ça continuera. On sait pas jusqu'à quelle hauteur.
Je sais pas non plus si ça va être modulé.
On sait pas non plus.
C'est de plus en plus proposé.
Effectivement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être à suivre. Puis je pense que dans les milieux étudiants, il risque d'y avoir du brasse-camarade sur ces dossiers-là. Ça, bon, c'est ça. Là-dessus, on n'a pas plus de détails. Mais sinon, bon, c'est sûr qu'ils disent qu'ils augmentent le crédit pour les personnes plus démunies, là, en l'appelant crédit pour la solidarité. C'est comme...
Ouais, en fait, ils fusionnent le crédit de TVQ avec le crédit d'impôt foncier.
C'est ça. Puis,
sauf que tous les analystes disent que ça ne cotera probablement pas les hausses.
Ben non, ça ne cotera jamais les hausses. Là. On a juste à calculer tout ce qu'on vient de dire, puis c'est jamais ça. Là. Tu sais, on parle de qu'ils vont consacrer 1,4 milliard, soit 510 millions de plus que les mesures qu'ils remplacent. Donc, $174 de plus pour chaque ménage visé. Ce qui veut dire que d'ici à ce que la cote santé, là, le $200 soit atteint, ben c'est ça. Ben en fait, c'est par ménage. Fait que c'est même pas... Là, c'est par personne le $200. En tout cas. Voilà, c'est en gros ça les points saillants du budget. C'est sinon aussi oui, quelque chose qui est très important. On sait qu'il y a
l'autre moitié, il y a le versant des dépenses aussi.
Oui, il y a le versant des dépenses, c'est ça, puis le versant par rapport aux employés du secteur public. Là, on sait qu'il y a le Front commun actuellement qui est en marche, ben une négociation qui est en cours depuis quelques temps déjà, qui en fait était supposé le décret de 2005 arrivé à échéance aujourd'hui, le 31 mars, là, ou si vous l'écoutez demain, arrivé à échéance hier. Donc, les gens de la fonction publique se retrouvent actuellement sans convention collective, qu'elle soit négociée ou imposée.
Mais aussi sans interdiction de faire des moyens de pression.
Oui, c'est sûr, sauf que là, c'est ça, le temps que ça se mette en branle et tout, on peut voir aussi que dans le budget, il y a le cadre budgétaire que le gouvernement a fixé au début de la négociation, soit une hausse de 7% sur 5 ans. C'est ce qu'ils mettent dans leur budget. Il n'y a pas de place à... Ou en tout cas, tu sais, ils ne donnent pas l'ouverture à ce qu'il y ait une négociation entre le point de vue syndical, qui est 11%, 11,2% sur 3 ans. Puis, donc, il n'y a pas de place à la négociation dans le cadre budgétaire. C'est donc un message assez clair qu'on s'enligne encore une fois vers une loi spéciale, encore une fois on continue à finalement dévaloriser le travail au sein des services publics, au sein du système de santé, du système d'éducation, pour lesquels on dit ah non, on continue d'essayer d'augmenter la qualité en augmentant les revenus, sauf qu'on va faire en sorte qu'on va juste dépouiller plus les gens qui travaillent là, les gens qui se donnent pour ça. Puis ça, c'est sans compter ce qu'ils veulent faire par rapport aux infirmières, par rapport aux primes et par rapport à leurs conditions de travail qui seraient diminuées encore une fois.
Oui, on parle entre autres d'abolition de congés, de différents congés.
Qui sont déjà très difficiles à obtenir quand on travaille avec les infirmières, les demandes.
Oui. Au niveau des dépenses de l'État, il y a toute l'idée aussi de comprimer la progression des dépenses. Il y a l'idée d'étendre à l'ensemble du secteur public la compression des dépenses. Donc, la santé et l'éducation ne sont plus exclus du contrôle des dépenses. Donc, eux aussi vont devoir comprimer leurs dépenses parce parce que finalement les budgets vont augmenter moins vite que la hausse normale des coûts. Et il y a aussi le fameux principe de remplacer un départ à la retraite sur deux qui est étendu à l'ensemble de la fonction publique.
Ça, c'est sérieusement assez fou, là, parce que je veux dire...
Alors que le Conseil du Trésor reconnaît lui-même que ça amène pas nécessairement d'économie parce que souvent, il faut aller embaucher des sous-traitants. C'est emblématique de l'ensemble du budget. Bon, là, on va avoir toute une série de coupures. On voit en logement social, par exemple, on parle de 3000 nouveaux logements sociaux sur 5 ans au lieu de 3000 dans l'année. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. On parle aussi, là, il n'y a rien pour le plan de lutte à la pauvreté. Il n'y a pas grand-chose, finalement. Il n'y a pas de marge pour améliorer quoi que ce soit. On maintient ou à peu près les services, mais on les étrangle aussi en même temps. Ce qui, moi, me frappe dans le budget, que ce soit du côté des nouveaux revenus que le gouvernement va aller chercher ou du côté des dépenses qui sont comprimées, c'est l'application idéologique d'un mur à mur. Systématiquement, on a choisi l'application non nuancée, pure et dure, la plus à droite possible. Si on prend, par exemple, la hausse des tarifs d'hydroélectricité, c'est un truc qui est mis de l'avant depuis plusieurs années par beaucoup de monde, dont des sociodémocrates et des écologistes, qui disent que si on haussait les tarifs d'hydroélectricité, on pourrait peut-être réussir à réduire notre dépendance, puis on pourrait peut-être s'en servir pour introduire d'autres choses et tout et tout. Sauf qu'il y a plusieurs façons d'hausser les tarifs d'hydroélectricité. Est-ce que les sociodémocrates authentiques et les écologistes prônent la plupart du temps, c'est dire la consommation moyenne normale de ménage au Québec est de temps. Donc, ce bloc-là, pour votre premier bloc, vous aurez tel tarif, et pour le supplémentaire, pour chauffer la piscine creusée, pour chauffer le garage, là, vous aurez un deuxième tarif qui sera plus élevé, et là, comme ça, on pourra aller chercher, mettons... pas récompenser, on pourra désencourager, désinciter. Comment on dit ça? Je fourrais, là, j'ai un blanc, en tout cas.
Ben, c'est une incitation à l'économie, finalement.
En fait, on pourra dire aux gens, c'est une incitation à l'économie sans toucher au monde. Mais là, ce qu'on fait, c'est plutôt une augmentation uniforme de 3,6% plutôt que d'aller chercher vers la consommation qui est excessive. Parce que, de fait, tout le monde en a besoin de l'électricité. Il faut chauffer, il faut s'éclairer. On vit au Québec au 21e siècle. On aurait pu choisir de faire autrement. On ne fait pas autrement. Même chose avec la question de la santé. Une caisse de la santé, il y a plusieurs façons de faire une caisse de la santé. Il y a la façon Poll Tax, Margaret Thatcher, 1979, 85 en tout cas, je pense. Mais qui est de dire justement, par tête de pipe, ça c'est comme chaque habitant va payer 200$ pour le système de santé. C'est la façon qui est choisie. Il y a aussi des façons tout simplement plus progressives de le faire. Il y a différentes façons de financer, là. Je veux dire, la caisse de l'assurance emploi, par exemple, est financée parce que c'est une caisse dédiée, mais pourtant c'est une caisse dédiée qui est en fonction du nombre d'heures, en fonction du salaire, en fonction de tout plein de choses comme ça. Et là, on fait le choix idéologique, finalement, de s'en prendre directement à la classe moyenne et de s'en prendre directement aux plus démunis. Et finalement, d'attaquer le peuple et de laisser l'élite tranquille. C'est pas compliqué. Au Québec, si on regarde ça, t'as, comme dans toutes les sociétés capitalistes, là, t'as une pyramide sociale où est-ce que t'as du monde en haut puis t'as du monde en bas. Puis le monde en haut, là, le 1% en haut du top de l'échelle salariale, au Québec, ils vont chercher 9% des revenus. Mais là, on dit, en donnant des tarifs, plutôt que de dire on a besoin de 3,4 milliards, on va aller les chercher selon leurs revenus, on dit non, on va aller chercher selon combien qu'ils sont. Et ça, ça n'a pas de bon sens. D'autant plus que si on prend l'ensemble des déductions fiscales possibles, selon les économistes, actuellement, le cinquième le plus riche de la population, il est imposé à 29%, alors que la classe moyenne, qui fait entre 50 et 100 000 $ par année, est imposée à 39%. par ménage. Et donc, c'est ça. C'est, on voit vraiment, c'est un budget idéologique, c'est un budget de lutte de classe. Oh, sauf que c'est pas nous qui l'amène. C'est contre nous autres. Donc, c'est ça. Puis je voulais juste finir sur une affaire, là, on parlait, ça va toucher très fortement les plus pauvres, puis ça va leur rentrer dans les dents. C'est un fait. Mais ça va rentrer dans les dents de beaucoup de monde. Et il y avait un calcul hier qui, moi, m'a frappé. J'essayais de lire, là, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé au budget. Puis là, j'avais comme 92 pages web ouvertes en même temps. Puis je me suis ramassé sur rue Frontenac où eux, ils ont fait des calculs. Puis ils prenaient un ménage, deux adultes, deux enfants, deux salariés pour 60 000 $ par année. Et ils disaient qu'en 2014, lorsque tous les tarifs seront rentrés en vigueur, ils vont payer 1044 de plus par année en tarifs au gouvernement du Québec. Puis on s'entend dessus que 60 000 $ par année au Québec pour un ménage, t'es pas pauvre. Mais t'es pas non plus c'est pas un gros charme non plus.
Tu t'achètes pas une maison dans une grande ville, là.
Non, c'est ça. Donc c'est ça, puis c'est ces gens-là qui sont ciblés. Et finalement, on attaque les syndicats et les syndiqués de tous les bords, tous les côtés. Okay, bref, voilà. C'est le détail. Oui, excuse-moi.
Vous avez pas entendu parler d'entreprise, hein?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont pas visés.
Hey,
on réduit leurs impôts.
On réduit leurs impôts.
Attends, je lis ici, c'est quand même hallucinant. 729 millions de dollars en 2010. On réduit les impôts des entreprises de 729 millions de dollars en 2010. Ceci dit, on va venir nous chercher 3,4 milliards de plus dans les poches.
Wow.
C'est le fun.
Ça, ça va nous augmenter nos salaires.
Ça, non, évidemment, on ne nous augmentera pas nos salaires.
La prochaine fois que vous regarderez les chiffres de hausse du PIB, là, parce qu'en plus, ils ont parlé de ça aujourd'hui, qu'apparemment que le PIB continue de croître là, au Canada et au Québec. Puis, en tout cas, je ne sais pas où ça va.
Non.
On le sait, mais on ne le dira pas.
On le dira pas. OK. Tu nous as sorti un band que je sais pas c'est quoi, puis je suis pas capable de le prononcer.
En fait, c'est le chanteur du band System of a Down, Serge Tankian, qui a fait un album solo en 2007, je crois. Puis la tune c'est Unthinking Majority. Je trouvais que ça se prêtait bien là à tout ça, au contexte.
Controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. We don't need your hypocrisy, it's a cute real democracy. Post-industrial society, the unthinking majority. Post-industrial society, the unthinking majority. Real democracy, post-industrial society.
essence, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable.
I believe that you're wrong, insinuating they hold a bomb, clearing the way for the oil brigade, clearing the way for the oil brigade.
We all need your hypocrisy, execute real democracy, post industrial society, the unthinking majority.
We all need your hypocrisy, execute real democracy, post industrial society.
D'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
T'écoutes, voix de
fait, madame.
Hey, bon, c'est une chose de regarder ce que le gouvernement nous fait comme mauvais coup et nous prépare. Ça, il faut voir aussi, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Et déjà, bon, on en a parlé à quelques reprises, là, il y a une grande manifestation nationale à Montréal le 1er avril, donc jeudi, c'est demain si vous nous écoutez en soirée, et c'est en ce moment si vous nous écoutez, si vous nous écoutez jeudi. Le thème, c'est « La richesse existe, prenons-la où elle est ». Et bon, c'est ça, à l'origine, c'est une coalition qui met ça sur pied, qui est une coalition syndicale, communautaire, féministe, étudiante. Coalition qui grossit rapidement et mobilisation qui grossit rapidement aussi, parce que en début de semaine, selon un décompte que j'ai trouvé sur Presse 3 à gauche, il y avait quelques 10 000 étudiants et étudiantes qui étaient partis pour être en grève le 31 mars et 22 000 le 1er avril pour pouvoir participer à cette manifestation-là. Et en fait, depuis, il y a des votes de grève qui ont eu lieu. Quand même, plusieurs institutions collégiales et universitaires en grève, plusieurs facultés universitaires d'une institution, plusieurs cégeps. En fait, il y a l'AC qui compte 3 cégeps membres et une faculté universitaire en grève. Il y avait 2 autres cégeps qui avaient des votes à venir. Du côté des indépendants, on parle d'un cégep, 2 facultés de l'UQAM. Il y a un autre cégep, Vieux-Montréal, dont le vote est à venir. Et il y a même un cégep membre de la FEC à Trois-Rivières qui ont tenu un vote de grève. Ils l'ont eu par vraiment une courte majorité. On parle de moins de 10 membres, là. Mais il y a un vote de grève qui est passé. Donc, une mobilisation étudiante qui est bien enclenchée. Je sais pas le jour même combien de dizaines de milliers de personnes il va y avoir en grève. Donc, combien de centaines ou de milliers d'étudiants il y aura dans les rues. Mais c'est bien enclenché. Il faudra voir ce que ça va être dans d'autres secteurs. J'imagine que le budget va avoir des effets sur la mobilisation. C'est déjà que le FRAPRU et plusieurs autres tables régionales d'éducation populaire vont être présentes en très grand nombre. Juste pour vous donner une idée, à Québec, le REPAC, le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire, qui regroupe là, plusieurs groupes populaires de Québec, Chaudière-Appalaches, on est déjà rendu à 2 autobus. C'est quand même pas si mal. C'est pas toutes les régions qui descendent, mais quand même, dans la région de Québec, là, on parle de 5 autobus là, qui devraient monter jeudi matin à Montréal, ce qui est énorme pour oui. Québec, disons-le, pour une manifestation nationale. Bon, c'est sûr qu'il y a probablement beaucoup plus d'autobus que ça qui montait pour le Front commun samedi il y a 2 semaines, mais c'est différent. L'information du côté syndical, c'est pas confirmé, c'est pas tout à fait rentré. On sait qu'il y a plusieurs syndicats de profs, dont des syndicats de profs fâchés de la Fédération autonome de l'enseignement qui sont membres de la coalition qui devraient être présents. Il y a même la rumeur qui veut que la FTQ Construction va prendre la rue puis que ce sera pas pour faire le service d'ordre. Ils sont membres de la coalition, ils vont participer. Pour finir, comme dans toute bonne grosse mobilisation où est-ce qu'il y a des étudiants, des étudiantes et lassés, ben, il va y avoir des cortèges anticapitalistes et libertins qui vont être présents dans les rues. Donc ça va être à suivre, puis on va sûrement y revenir ici à voie de fait. Nous, l'UCL, là, bon, le collectif La Nuit qui fait voie de fait est membre d'une fédération qui s'appelle l'Union communiste libertaire, on va être présents, il devrait y avoir un cortège rouge et noir, en tout cas un petit bloc Le Crochet Noir quelque part dans Mer de Monde, là. Et donc pour diffuser lors de cette manifestation-là, entre autres, il y a une cause commune express que vous pourrez sans doute lire dès demain matin ou peut-être plus demain soir sur notre blog. Va être fait avec un x1s.blogspot.com. En fait, intitulé contre les privatisations et les hausses de tarifs, seule la lutte paye. Et ce qu'on veut dire, outre le fait là, ou d'expliquer qu'est-ce qu'il y en a, des hausses de tarifs et des compressions et tout ça et tout ça et tout ça, ce qui pour nous semble important à dire puis qui va falloir marteler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est que c'est pas parce qu'une décision est prise au gouvernement qu'on peut pas la faire renverser. Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu une très forte mobilisation de la droite et des élites économiques et politiques qui a abouti dans le budget qu'on a vu là. Sauf que le budget en question, c'est un budget où est-ce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais qu'il y a peu de choses qui vont être en place immédiatement. Et donc, il y a une marge de manœuvre si l'économie prend du mieux, si le monde chiale assez fort. Il y a une marge de manœuvre pour finalement adapter tout ça et c'est là-dessus qu'il faut tabler pour augmenter le rapport de force. Et donc, c'est ça. Là, actuellement, on veut faire payer la crise aux classes populaires. On veut faire payer la crise au peuple, finalement, à un peu tout le monde, sauf les élites économiques. Et donc, si on veut revenir à une redistribution de la richesse, il faut vraiment amorcer une riposte. Et jusqu'à maintenant, le discours était plutôt timide, portait sur la question de la fiscalité, portait un contre-discours, mais sur les bases mêmes. Du discours libéral, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'hausser les tarifs, on pourrait peut-être rajouter un palier d'imposition à l'impôt et tout. C'est effectivement, c'est des visions différentes et tout, mais la fiscalité, même plus progressive, va pas régler fondamentalement le partage inégal de la richesse dans notre société. Et de fait, en fait, ultimement, pour régler ça, il va falloir s'attaquer aux patrons et aux dirigeants et s'attaquer à leur richesse. Puis ça, c'est pas sur l'écran radar actuellement du tout. Sauf peut-être un peu du côté de Québec solidaire, mais encore là, pas vraiment beaucoup. Ils le voient juste fiscalement. Puis ce qu'il faut dire, c'est que ben, justement, il faut envisager des moyens là, de sortir de ça. Et pour réussir à aller plus loin, mais ça va prendre un mouvement anticapitaliste organisé et articulé pour faire avancer les choses. Puis ben c'est ça, là, la justice sociale, la véritable justice sociale, ça peut pas se résumer à un crédit d'impôt, même solidaire. Ça doit passer par l'égalité économique et sociale. Puis ça, fondamentalement, ça, c'est en contradiction avec le système capitaliste. Bon, ceci dit, être en contradiction avec le système capitaliste, dépassé, faire la révolution, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est bien beau, mais dans l'immédiat, c'est pas nécessairement ce qui est à l'heure du jour. Et ce qui est à l'heure du jour, en fait, c'est des affaires comme il va se passer jeudi, mais puissance 10. Dans l'immédiat, en fait, il faut recommencer à se battre ensemble, tout ensemble, coude à coude, parce que ça, c'est une des affaires qui est intéressante de la manifestation du 1er avril, c'est qu'on a pour la première fois depuis passablement longtemps, en fait, une grande coalition avec plusieurs secteurs, plusieurs mouvements sociaux qui mettent de côté un peu leur revendication particulière, leur lutte particulière pour créer un mouvement d'ensemble. Puis on va avoir besoin d'un mouvement d'ensemble parce que pour faire reculer les libéraux, là, c'est pour les mesures qui sont annoncées, là, surtout celles qui sont annoncées à moyen terme, là, pour les faire revenir en arrière, ça va prendre des grosses mobilisations. Bon, il y a un ras-le-bol, les gens sont écœurés, là, du gouvernement, de ses magouilles, puis tout ça, là. Mais pour y arriver, il va falloir revenir à un mouvement unitaire et combatif. On a besoin d'une espèce de tous ensemble un peu à la française. Et donc, ben, c'est ça. On a eu ça récemment, là, quand même, en 2003, par exemple, qu'il y avait un tous ensemble avec le mouvement syndical qui était vraiment. On n'a pas voté pour ça.
C'est ça.
Non, on vote pas, ça c'était nous autres. En 2005 aussi, le mouvement étudiant a réussi à passer par-dessus ces divergences pour, sur une lutte sectorielle, aller gagner quelque chose. Puis ben, c'est ce genre de mouvement-là dans la combativité. Sauf que cette fois-ci, il faudra pas rater notre grève générale. Non. Si on la rate, ça marchera pas. Que ce soit, puis là, je parle pas juste d'une grève générale étudiante. Aussi, il avait été question en 2003 d'une grève générale sociale. Une grève sociale, et ça avait été mis de côté pour une grande réconciliation entre la FTQ, le gouvernement libéral, et d'ailleurs, Marc Bellemare en est toujours pas revenu. Il en parle encore dans les médias. Mais donc, c'est ça, il va falloir faire attention pour pas se faire tasser les mots d'ordre, les initiatives plus radicales. Puis entre autres, il va falloir réaffirmer. C'est pas difficile avec les libéraux, mais ça va être peut-être plus dur si jamais ils sont remplacés par des péquistes, que c'est pas avec un dialogue social, une concertation, en étant gentil, en argumentant, qu'on va arriver à faire plier le gouvernement, mais c'est avec la création d'un rapport de force essentiellement. Rendu là, c'est des questions d'intérêt. Et puis, c'est ça, là, il faut pas se leurrer, là. Le budget qu'on a là, c'est une déclaration de guerre, là. C'est un budget de lutte de classe. Il va s'attaquer directement à vos poches, vous faire les poches. Fait que, si vous voulez pas vous faire les poches, il va falloir vous défendre.
Ouais.
Fait que c'est ça. Donc, ça, c'était mon petit laïus propagandiste de la semaine. Donc, manquez pas notre site web, là. Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com pour avoir plus d'informations là-dessus. Je crois que tu avais 2-3 trucs que tu voulais dire avant la fin. Là, je pense qu'on a le temps.
On a le temps. Bon,
si tu y vas vraiment vite.
Je voulais juste mentionner quelque chose que j'ai trouvé un peu. C'est cocasse, mais ça l'est pas en même temps, là, par rapport au gouvernement conservateur qui parle de, dans le fond, de l'aide aux femmes et aux enfants à l'étranger et tout, de l'aide humanitaire, mais dans une optique très conservatrice, très on va aller imposer une vision de comme empêcher l'avortement, la contraception et ces choses diaboliques qui font en sorte que les bébés meurent. Mais ils se sont fait critiquer par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Alors que, dans les dernières années, avec le gouvernement Bush, on voyait beaucoup l'inverse, où là, c'était le gouvernement canadien qui amenait une position de ce style-là, puis, pas depuis que Stephen Harper était là, mais en tout cas, bref, c'est ça, ils se sont fait rabrouer par le secrétaire d'État américaine. Et,
c'est l'inversion des pôles.
L'inversion des pôles, c'est ça. Mais d'après ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qui est assez commun, là. Ça s'est passé aussi avec Bush père, ça s'est passé ensuite quand Clinton, Bill était président, puis là, c'est de nouveau l'inversion. Fait qu'en tout cas.
Hey, c'est cool.
Ouais.
Mais c'est cool, c'est drôle.
C'est drôle.
C'est rigolo.
Ouais, c'est là qu'on voit que, dans le fond, la démocratie libérale est très bien érodée pour nous faire à croire que plus ça change et plus ça va mieux et plus tout va bien.
C'est l'alternance, mon cher.
Ouais, c'est l'alternance, c'est ça.
Et c'est pas mal ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fée. Alors, c'était Nicolas avec
Guillaume
et Jean-Pierre. Qui nous a mis la musique, qui a fait la mise en onde, qui nous a dépanné beaucoup et qu'on est très content de l'avoir avec nous. Et on va terminer avec La Rage du Peuple de Kenny Arcana, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de rage.
Et
de l'exprimer dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, pour vous péper un peu sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, passez une belle semaine. C'était le collectif On enregistre la nuit avec Voix de Fée.
Tout le temps, et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre bouge dans la rage. arabe sans tasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclard? C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère, pour que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas, où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
On a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
On a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
On a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de cris ça y s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident...